Bonjour Charles Decan.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, le sommaire du jour Charles.
Alors des questions en pagaille, pourquoi France 2 a-t-elle viré Patrick Sébastien? Quel score pour le débat Trump-Biden? Quels sont les meilleurs livres de l'année selon les enfants? Et comment Charlie Hebdo a-t-il fêté ses 50 ans?
Mais je l'ai annoncé, on commence par les audiences toutes chaudes. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé?
Même en rediffusion, c'est Alex Hugo qui s'est largement imposé hier sur France 2. La série avec Samuel Le Bihan a fédéré 4,3 millions de téléspectateurs, soit 19,5% du public. C'est un excellent score pour la chaîne, mais c'est une petite forme pour Alex Hugo, comme quoi tout est relatif. TF1 pointe à la deuxième place avec la suite de The Resident saison 2. Les deux épisodes inédits affichent une moyenne de 3,3 millions de téléspectateurs au compteur pour 15,4% de part d'audience. Comme toutes les semaines, la série est leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, mais elle est en sensible baisse à 27%. Alors pourquoi est-ce qu'elle est en baisse? Parce qu'en face, M6 lançait la nouvelle saison du meilleur pâtissier.
Ah oui.
Elle permet à la chaîne de se classer 3e. Julia Vignali, Mercotte et Cyril Lignac ont régalé 2,7 millions de téléspectateurs, soit 14,1% du public et 25% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. C'est un lancement qui est en hausse sur un an, plus 600 000 personnes.
Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec l'interview vérité de Delphine Ernotte.
En avant-première, Culture Média a pu se procurer l'entretien que la patronne de France Télévisions a accordé au magazine Forbes et qui paraîtra demain. Fraîchement reconduite à la tête du groupe public pour un second mandat, Delphine Ernotte est interrogée sur ses priorités, sa vision de l'entreprise, mais aussi sur un départ qui a fait couler beaucoup d'encre, celui de Patrick Sébastien. Alors on a lu et entendu beaucoup de choses sur l'éviction de l'animateur. Il n'a pas épargné la direction de France 2 ces deux dernières années dans de nombreuses interviews, mais du côté de la chaîne, on était jusque-là resté assez silencieux. Dans l'interview qu'elle donne à Forbes, Delphine Ernotte est invitée à expliquer pourquoi elle a décidé de mettre un terme au contrat de Patrick Sébastien. Et selon elle, le seul responsable de ce départ, c'est Patrick Sébastien. Alors voilà ce qu'elle explique au magazine Forbes, je cite... L'émission qui était formidable par certains côtés vieillissait un peu, pas tant les numéros qui étaient présentés que ce qui se passait autour. L'audience baissait fortement. On a donc demandé à Patrick Sébastien d'évoluer, de moderniser le concept, mais il a décliné. Patrick Sébastien est très doué, c'est un grand animateur, il sait repérer des talents incroyables. J'aurais sincèrement préféré qu'il nous dise « Ok, je comprends, on bosse ». On l'aurait toujours à l'antenne.
Waouh, fin de citation. Et on apprend aussi dans l'interview de Forbes par Yves Deray que Delphine Ernotte brigue un autre poste.
Elle est candidate à la présidence de l'audiovisuel public européen, un poste stratégique à une époque où l'alliance des chaînes européennes face aux plateformes de streaming semble vitale. Elle s'est alliée avec le directeur général de la télévision publique tchèque pour former un binôme et on saura demain si leur candidature a été retenue.
Tchèque. Dans la nuit de mardi à mercredi, ça n'a pas checké. Joe Biden et Donald Trump se sont écharpés à la télévision américaine.
Answer the question.
Why would you answer that
because
question?
The question is,
voilà, on a beaucoup parlé du débat hier, ou plutôt de l'absence de débat. 90 minutes de cris, d'invectives et même d'insultes. Voilà ce qu'on a retenu de ce premier affrontement entre les deux candidats à la présidentielle américaine. Ce match a été extrêmement suivi aux États-Unis, évidemment. Les audiences sont stratosphériques. 16 chaînes américaines le diffusaient et au total, elles ont réuni 73 millions de téléspectateurs. C'est le deuxième meilleur score d'un débat présidentiel depuis 24 ans. Malgré tout, on est loin du record. C'était le score enregistré par le premier débat de 2016 entre Donald Trump et Hillary Clinton. Si je dis premier, c'est parce que la tradition veut qu'il y ait 3 débats et ça devrait encore être le cas cette année a priori. En 2016, donc, le premier match Trump-Clinton avait été suivi par 84 millions d'Américains. À noter que de toutes les chaînes qui diffusaient le débat, c'est Fox News qui s'est classée première chaîne des États-Unis avec près de 18 millions de téléspectateurs, devant notamment ABC qui était deuxième à 13 millions.
Et hier, le modérateur du débat, Chris Wallace, a exprimé ses regrets.
Dans une interview au New York Times, le journaliste de Fox News qui est extrêmement respecté outre-Atlantique, il s'est dit déçu par le spectacle offert. Je cite, je n'aurais jamais pu imaginer que ça déraillerait de la sorte. Je suis un professionnel, je n'ai jamais rien vu de pareil. Alors il a reconnu qu'il avait mis trop longtemps à tenter de maîtriser le débat. Je cite, je sais que les gens se demandent pourquoi je ne suis pas intervenu plus tôt. Je crois que je n'ai pas réalisé que ça allait être la stratégie du président, pas seulement pour le début du débat, mais pour la totalité.
Et alors certains ont évoqué une possibilité, celle de permettre aux modérateurs de couper le micro de l'un ou de l'autre des candidats en cas de besoin.
Oui, mais Chris Wallace n'est pas franchement pour, je cite toujours dans son interview au New York Times, en termes pratiques, même si le micro du président avait été coupé, il aurait pu continuer à interrompre Joe Biden et on aurait même pu l'entendre via le micro de Biden. On peut aussi se demander comment les partisans de l'un ou de l'autre auraient réagi, comme le souligne d'ailleurs Chris Wallace, je cite, il faut se rappeler que ces deux candidats ont chacun le soutien de dizaines de millions d'Américains.
On passe de Donald Trump à Mickey Mouse, le journal de Mickey a remis son grand prix des lecteurs.
Oui, et on imagine que les discussions du jury ont été plus plus apaisé qu'entre Donald Trump et Joe Biden. Alors pour la 18e année, l'hebdomadaire a fait appel à un jury de lecteurs de 8 à 14 ans pour élire le roman de l'année et la bande dessinée de l'année. Louise Bernard a demandé à Edith Riebon, la rédactrice en chef du journal de Mickey, pourquoi ce prix avait été créé.
Ça fait 85 ans que le journal de Mickey s'adresse aux enfants. Il y a des générations entières qui ont découvert la BD, hein, qui ont appris à lire presque avec Mickey et Donald. À leur tour, ces personnes ont abonné leurs enfants au journal de Mickey, qui l'ont abonné au journal de Mickey, qui ont abonné leurs enfants au journal de Mickey. Voilà. La lecture, c'est vrai que c'est une affaire de transmission. Et donc, quand on est un journal qui s'adresse aux 9-14 ans, évidemment que c'est aussi notre responsabilité de les intéresser à la lecture, puis à toutes les lectures, à tous les styles de lecture, hein, pas qu'à la BD, mais aussi aux romans. On s'est dit qu'on allait créer un grand prix des lecteurs pour parler aussi bien des romans que des BD, et que surtout, on allait laisser ceux qui lisent la littérature jeunesse en parler, c'est-à-dire on allait laisser les jeunes lecteurs décerner ce grand prix.
Alors pour trouver ces jeunes jurés, le magazine a lancé un appel à candidature en mars. Il a reçu plus de 500 réponses, dont 16 ont été sélectionnées et ont passé du coup leur été à lire. On a parlé avec Edith Riebon de ce processus de sélection.
Les jeunes jurés nous disent, c'est bien la première fois qu'on me demande mon avis comme ça. Parce que moi je leur dis toujours, c'est pas du tout un travail scolaire ce qu'on vous demande. Hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, on vous demande votre avis à vous, pas celui de vos parents, pas celui de vos amis, mais à vous. Vous avez le droit de ne pas aimer un roman pour les mêmes raisons qu'une autre personne aimera ce roman. Donc, à vous de nous dire, par contre, de nous expliquer, d'argumenter pourquoi vous le conseilleriez ou pas à quelqu'un de votre âge. C'est exactement ça qu'on leur demande. Comme un bon copain le ferait, voilà, est-ce que tu conseilles ou pas ce roman ou cette BD ?
Et alors, les gagnants sont ?
Bah oui, forcément, c'est la question qu'on se pose. Côté roman, L'incroyable voyage de Coyote Sunrise de Dan Gemeinhardt, histoire du road trip en bus d'une fille et de son père. Côté BD, Lulu et Nelson de Jean-Marie Aumont, Aurélie Néret et Charlotte Girard, dans laquelle on suit une jeune Italienne débarquée en Afrique du Sud où elle rencontre le jeune Nelson.
Et on termine ce journal avec les 50 ans de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo accueilli dans les pages de Libé.
Oui, Charlie Hebdo s'invite à Libé à l'occasion de ses 50 ans. L'hebdo satirique investit nos colonnes. Voilà ce qu'on peut lire en une de Libé ce matin, dont la une donc a été signée par la dessinatrice Coco. Pas une seule photo n'apparaît dans ce numéro du quotidien. Toutes les illustrations ont été réalisées par des dessinateurs et dessinatrices de l'hebdo satirique. Il y a aussi des prises de parole des membres de la rédaction de Charlie en réaction à certains des articles du jour.
Et alors, question, pourquoi Charlie fait-il ses 50 ans, non pas chez lui, mais dans les colonnes de Libé ?
Alors, le quotidien rappelle dans un petit making-of que c'est lui qui avait accueilli l'équipe de l'hebdomadaire dans ses locaux après les attentats de 2015. C'est là-bas que l'équipe de Charlie avait réalisé le numéro des survivants qui s'était écoulé à plus de 8 millions d'exemplaires quelques semaines après le drame. Ils sont ici chez eux, ils sont venus, ils sont tous là, ceux qui sont restés en vie comme ceux arrivés à Charlie après l'attentat et qui sont constamment menacés, traqués, surveillés ou qui sont isolés de tous pour pouvoir dessiner et écrire, explique Libé dans le making-of de cette édition spéciale. Ils ont participé à notre conférence de d'action, lancer des idées, poser des questions, puis se sont mis à écrire et à dessiner dans nos pages.
Un numéro à garder et qui risque de devenir collector. Merci beaucoup Charles Decan. À demain pour un nouveau journal des